Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, difficulté autour de l'accord de paix signé en février à Khartoum suite à la formation du nouveau gouvernement.
Au Gabon, on s'achemine vers une rupture de stock des traitements antirétroviraux pour soigner les personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Et bonne nouvelle sur la question du SIDA, deuxième cas mondial de rémission d'un patient atteint du VIH selon une étude.
Au Libéria, inculpation de 5 anciens dirigeants de la Banque centrale, dont un fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf.
En Syrie, les forces démocratiques syriennes ont procédé à de nouvelles évacuations de civils du dernier réduit du groupe djihadiste État islamique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a qualifié de bidon une vaste enquête parlementaire lancée par les démocrates.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, l'accord de paix signé début février est dans la tourmente depuis la formation d'un nouveau gouvernement. 5 des 14 groupes armés signataires ont pris leur distance avec la nouvelle équipe. Le point avec Ekabadou.
Le nouveau gouvernement est conforme aux arrangements de l'accord de paix signé début février, a déclaré hier le Premier ministre Firmin Grébata, ajoutant « Il faut éviter tous les actes qui pourraient nous ramener en arrière ». Aucun ministère régalien n'a changé de titulaire et 6 des 14 groupes armés ont obtenu des ministères. 5 groupes armés ont désavoué la nouvelle équipe. Hier, l'UPC, l'Unité pour la paix en Centrafrique, dirigée par Ali Darassa, a affirmé que l'accord de paix était menacé si le gouvernement ne montre pas très clairement un changement d'attitude. Pourtant, un de ses membres a été nommé ministre de l'élevage. Auparavant, le MPC, le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique, allié de l'UPC, issu de l'ex-Séléka, avait estimé l'accord caduc. Un de ses membres a été nommé ministre de la Modernisation. Ce mouvement estime que le gouvernement n'est pas assez inclusif. Aussi, le FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique de Nourdine Adam, titulaire de 2 ministères, a dit ne pas vouloir participer à ce gouvernement de mascarade, sans spécifier s'il se retirerait de l'accord, le 8e depuis 2013.
Et nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Au Gabon, le stock de traitements antirétroviraux destinés à soigner les personnes vivant avec le VIH-SIDA est en cours d'épuisement. C'est ce qu'a indiqué hier à l'AFP la directrice d'ONU-SIDA Gabon, Françoise Deschimier. Pour certaines molécules, les stocks de sécurité d'au moins 3 mois, que l'on doit garder en cas de besoin, ont été totalement épuisés, a souligné la responsable au Gabon de cette agence onusienne chargée de coordonner les programmes de lutte contre le sida. La situation est préoccupante, mais on essaie de tout faire pour que la rupture ne soit pas généralisée, a-t-elle ajouté. Au Gabon, 56 000 personnes sont infectées par le VIH, dont 34 000 sous traitement antirétroviraux, selon les chiffres publiés en juin 2018 par cet organisme. Nous y reviendrons également en seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Et une deuxième personne a connu une rémission durable du VIH1, le virus à l'origine du sida, après avoir interrompu son traitement et est probablement guérie, doivent annoncer des chercheurs à une conférence médicale ce mardi. 10 ans après le premier cas confirmé d'un patient souffrant du VIH s'étant remis de cette maladie mortelle, un deuxième cas, connu comme le patient de Londres, n'a pas montré de signe d'être atteint du virus depuis près de 19 mois, ont rapporté les chercheurs dans la revue Nature.
En Gambie, un tribunal a inculpé hier Yankuba Touré, ministre de l'ancien président Yahya Jammé, de subornation de témoins devant la commission Vérité et Réconciliation. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le procureur Almamy Manga a déclaré que Yankuba Touré a été inculpé d'actions visant à interférer ou à faire obstruction au travail de la commission. L'accusé a plaidé non coupable et a été libéré sous caution avec interdiction de quitter le pays. Yankuba Touré, plusieurs fois ministre sous Yahya Jammé, a été arrêté samedi suite à l'audition par la commission Vérité et Réconciliation de l'ex-sergent Aladji Kani. Ce dernier a reconnu avoir participé au meurtre d'autres soldats en novembre 1994 et a celui du ministre des Finances Ousmane Koro Sizei, retrouvé carbonisé dans sa voiture en juin 1995 sur la route conduisant à l'aéroport. M. Kani a aussi affirmé que Yankuba Touray lui avait dit en janvier de ne pas s'inquiéter de cette commission qui ne peut rien lui faire. C'est la première fois qu'une personne est accusée de subornation des témoins depuis le lancement de la commission qui a auditionné 44 témoins depuis janvier. Instituée en décembre 2017, la commission Vérité et Réconciliation dispose de pouvoirs d'enquête. Au terme de ses travaux, elle pourra recommander des poursuites ou des réparations, mais pas prononcer des condamnations.
Cinq anciens dirigeants de la Banque centrale du Libéria, dont un firlde l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, ont été inculpés hier de complot criminel et de sabotage économique à la suite d'une enquête sur l'entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Trois d'entre eux, Charles Sirleaf, Milton Weeks et Dorbor Agba, en détention depuis la semaine dernière, ont été conduits en prison à l'issue de l'audience dans une salle comble du tribunal de Monrovia en attendant la date de leur procès, ont constaté des correspondants de l'AFP. Leurs deux co-prévenus en fuite, Richard Walker et Joseph Dennis, ont également été inculpés. Il leur est notamment reproché d'avoir fait imprimer sans autorisation de janvier 2016 à février 2018 un excédent de billets de dollars libériens et de ne pouvoir rendre compte de 2645 milliards que les prévenus ont frauduleusement détournés à leur propre usage et bénéfice, selon l'accusation.
L'Algérie est restée calme après l'officialisation de la candidature en cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, malgré la colère de nombreux habitants qui se préparaient à poursuivre la contestation dans les prochains jours. Lundi encore, des marches de protestation, souvent menées par des étudiants, ont été organisées à travers le pays. Pour sa part, le camp présidentiel estime que les engagements de M. Bouteflika, mandat écourté et importantes réformes constitutionnelles notamment, ont parfaitement répondu aux revendications exprimées depuis 10 jours. Le président algérien, qui est âgé de 82 ans, a été largement paralysé par un AVC dont il a été victime en 2013.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les forces démocratiques syriennes, soutenues par des frappes aériennes américaines, ont procédé hier à de nouvelles évacuations de civils de l'ultime bastion du groupe État islamique en Syrie, où les djihadistes sont accusés de défendre leur carré avec des boucliers humains. Après l'évacuation de milliers de civils en plus de 2 semaines, les combattants anti-djihadistes des FDS ont repris vendredi l'offensive contre les derniers combattants du groupe, terrés dans une poche du village de Baghouz, dans la province orientale de Deir ez-Zor.
Le président américain Donald Trump qualifie de bidon une vaste enquête parlementaire lancée par les démocrates qui ont réclamé des documents à ses fils et à son gendre, mais il a tout de même assuré qu'il y coopérerait. Bagasikoura.
Le président républicain a de nouveau rejeté les soupçons de collusion avec la Russie lors de la campagne de 2016, qui constitue l'un des volets de cette enquête officiellement lancée hier par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, une chambre contrôlée par les démocrates. Mais « je coopère avec le monde », a-t-il lancé. La commission parlementaire enquête sur des soupçons d'entrave à la justice, de corruption et d'autres abus de pouvoir de la part du président Trump, ses associés et des membres de son administration, a-t-elle précisé dans un communiqué. Il s'agit d'un vaste champ d'investigation qui recouvre à la fois les soupçons liés à l'ingérence russe lors de la dernière élection, y compris d'éventuelles manœuvres pour faire obstruction à la justice et d'autres aspects concernant la gestion de la Trump Organization, entreprise de la famille Trump.
L'opposant Juan Guaido a reçu un accueil triomphal hier à son retour au Venezuela, malgré la crainte d'être arrêté. Il avait quitté clandestinement le pays il y a une dizaine de jours pour se rendre en Colombie. M. Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim et a été reconnu par une cinquantaine de pays, a aussitôt lancé un nouvel appel à manifester samedi pour maintenir la pression sur le régime du président Nicolas Maduro. Arrivé lundi à la mi-journée à l'aéroport de Caracas, Juan Guaido a été accueilli par ses partisans et un comité d'ambassadeurs européens et latino-américains venu garantir sa sécurité, a expliqué le représentant de la France, Romain Nadal. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La
Le Congo-Brazzaville veut confier la gestion de ses routes nationales à la société privée La Congolaise des routes pour une durée de 30 ans. La Tribune écrit que la concession prend en compte la route nationale numéro 1 entre Brazzaville-Pointe-Noire et entre Pointe-Noire et Mindouli. Mais la route nationale numéro 2 entre Yé dans le Poule et Ouesso dans la Sanga doit être réhabilitée avant sa mise en concession. Excepté une meilleure gestion des routes, cette concession contribuera aussi à résorber le chômage grâce au recrutement du personnel. 275 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Côte d'Ivoire vient de recevoir de la BAD pour ses 5 projets transformateurs dans divers secteurs, dont les infrastructures routières, l'énergie, le transport urbain, l'électricité en milieu rural, l'agriculture et l'intégration sous-régionale. Ecofin, qui publie l'information, ajoute que le projet de transport urbain d'Abidjan a reçu 216 milliards de francs CFA pour sa seconde phase. Le désenclavement des régions de Bondoukou et Sampa a reçu 8,8 milliards de francs CFA. L'électricité en milieu rural a bénéficié de 27,7 milliards de francs CFA et le projet d'appui à la gouvernance de la filière cacao, 4 milliards de francs CFA. Pour terminer, le taux d'inflation du Kenya a chuté en février à 4,14% contre 4,7% enregistré en janvier. Selon le Bureau national des statistiques, cette baisse s'explique non seulement par la chute des prix des produits alimentaires de base, mais aussi par une augmentation de 0,12% en février par rapport à janvier 2019 de l'indice du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Huitième de finale retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, le Real Madrid, triple tenant du titre, doit chasser les doutes contre l'Ajax Amsterdam. Les deux classicos perdus contre Barcelone à domicile ont coûté cher aux merengues. En une semaine, ils ont dit adieu à la Coupe du Roi et abandonné presque toutes leurs chances en Liga, en étant relégués à 12 points du leader catalan. Il ne reste que la Ligue des Champions pour sauver la première saison de Santiago Solari. Les statistiques penchent du côté madrilène. Ils ont réussi à se qualifier pour les quarts lors des 8 dernières éditions, quand l'Ajax n'a plus atteint le top 8 depuis 2003. Dans l'autre huitième de finale retour ce soir, Dortmund rêve de faire mentir les chiffres. Après avoir craqué 3-0 à Wembley, les leaders de Bundesliga espèrent l'exploit contre Tottenham dans leur chaudron de l'Iduna Park.
Belmadi rappelle Annie en sélection algérienne.
Oui, plus convoqué avec les Fenech depuis un an, lorsque Rabah Madja l'avait mis à l'écart, Sofiane Hani, 28 ans, doit faire son retour ce mois. Le club du milieu offensif, le Spartak Moscou, a annoncé hier que le joueur a été appelé par Jamal Belmadi en vue des matchs contre la Gambie et la Tunisie qui auront lieu respectivement les 22 et 26 mars prochains. Une bonne nouvelle pour le Fenech qui vient de reprendre en club après une longue trêve hivernale.
C'est fini entre Benjamin Mukandjo et son club.
Oui, l'international camerounais n'est plus un joueur du Jiangsu Suning. Benjamin Mukandjo, 30 ans, s'est séparé avec le club chinois par consentement mutuel. Selon les dirigeants de cette formation, désormais libre de tout engagement, Mukandjo est annoncé au Shenzhen FC, club nouvellement promu. La saison dernière, l'ancien joueur du FC Lorient avait été prêté au Beijing René.
Le groupe A de FIBA Africa Basketball League a livré ses qualifiés pour l'élite 8.
Et oui, l'AS Salé et la JS Kaouran ont décroché leur ticket. Si la tâche a été plutôt aisée pour le club marocain qui évoluait à domicile, les Tunisiens ont dû attendre la dernière journée pour arracher leur ticket. Devant River Hoopers du Nigeria 91-70, l'AS Salé a fait le plein de victoires 3 sur 3. JS Kaïwan et l'AS Salé rejoignent ainsi Smoa SC et Al Ahly d'Égypte. Les clubs angolais Primeiro d'Agosto et Petro Atlético avaient déjà obtenu leur ticket pour la phase d'élimination directe. La dernière fenêtre du premier tour aura lieu le week-end prochain à Cotonou pour le groupe B. Et puisqu'on parle de basketball, on y reste avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Brooklyn et Dallas 127 à 88, Miami et Atlanta 114 à 113, San Antonio et Denver 104 à 103, Phoenix et Milwaukee 114 à 105, la Nouvelle-Orléans et Utah 115 à 112.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Gabon en rupture de stock de traitements antirétroviraux. Plus de 30 000 malades sont concernés par cette pénurie de molécules dans les centres de prise en charge de Libreville et de l'intérieur du pays. Le gouvernement accuse un retard dans les commandes déjà lancées de Libreville. Les précisions de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Moussounda Zamba, président du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon, est toute remontée à l'évocation de cette pénurie d'antirétroviraux dans les centres de traitement ambulatoire.
Les antirétroviraux, ce sont nos compagnons de vie. On vit avec. Donc, je me vois mal comment aujourd'hui ils peuvent déclarer la rupture des antirétroviraux.
Les malades sont désemparés et redoutent le pire si le ministère gabonais de la Santé ne réagit pas au plus vite.
Beaucoup à l'infectiologie meurent des ruptures des antirétroviraux. Et quand c'est causé par eux qui nous soignent, qui nous disent de ne pas sauter des heures, des minutes, des jours, vraiment c'est désolant.
Pour le gouvernement gabonais, la rupture des antirétroviraux est liée à un dysfonctionnement à la commande des molécules fabriquées en Inde, à Missa Brianna Bongo Ondimba, directeur général de la prévention du sida.
Le Gabon, parmi d'autres pays de la sous-région, peuvent passer une commande auprès des fournisseurs, mais que les délais de livraison dépasse la durée actuelle des stocks. Donc c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement.
La Direction générale de la prévention du sida rappelle qu'un traitement de substitution est prévu pour les malades en attendant la fourniture des centres de prise en charge en antirétroviraux. Libreville, Ismaël Obiangze pour La Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, le nouveau gouvernement a fait l'objet de contestations quelques heures seulement après sa formation. Certains groupes armés signataires de l'accord de Khartoum sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils ont appelé une violation des termes de cet accord. De Bangui, le point avec Freeman Sipila.
La première réaction a été celle du FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain. Ces combattants, basés dans le village de Zoukombo, sur le corridor Bangui-Gawamulai, ont interdit dimanche et lundi toute circulation sur cet axe. Une manière de dénoncer cette nouvelle équipe qui, selon eux, ne respecte pas l'accord de Khartoum. David Mboko Barbou, maire de Babwa, a tenté en vain de les en dissuader.
Hier, à partir de 17h, ils ont commencé à bloquer la voie. Et c'était quand même un saut. Pour aller écouter leur mécontentement. Ils m'ont dit que, bon voilà, ils sont mécontents par rapport au mouvement ministériel. Donc, à partir d'aujourd'hui, la voie sera bloquée.
Dans la foulée des réactions, le FPRC, l'aile dure de l'ex-Séléka, dit ne pas se reconnaître dans ce gouvernement. Pour exprimer son mécontentement, il a imposé ce lundi une journée ville morte en délai, son fief, allant jusqu'à chasser les enfants de l'école. Dans la classe politique, l'opposition dénonce elle aussi un gouvernement qui ne répond pas aux exigences de l'heure. L'ancien Premier ministre Nicolas Tchangaï, président du parti CRPS.
La première réaction que je peux avoir par rapport à ce gouvernement, c'est que, à mon avis, il n'y a pas de changement significatif par rapport à l'ancien. Or, je m'attendais à la mise en place d'un nouveau gouvernement qui crée un électrochoc, c'est-à-dire une dynamique nécessaire pour convaincre particulièrement les groupes armés à respecter eux aussi leurs engagements. Et je ne pense pas que ce gouvernement-là réponde, n'est-ce pas, à cette exigence.
La plateforme de la société civile dénommée GTSC se réserve pour le moment de tout commentaire, mais appelle les groupes armés au calme et les autorités à la responsabilité. Paul Cresson Beninga, porte-parole.
Nous avons là affaire à un gouvernement qui n'est pas inclusif, que les groupes armés se calment d'entrée de jeu, et nous invitons le président de la République ainsi que le chef du gouvernement à ouvrir incessamment un pourparler avec les groupes armés ainsi que les organisations de la société civile qui ne se reconnaissent non plus dans ce gouvernement pour éviter effectivement que les conditions qui sont en train d'être créées pour faciliter le retour d'une paix qui se veut durable soient un travail vain, je veux dire.
Dans la capitale, l'homme de la rue n'a qu'une seule attente, le retour effectif de la paix.
On demande maintenant de voir premièrement l'état de Centrafrique et les populations centrafricaines car nous sommes en train de souffrir.
Nous avons 8 femmes contre 5 par le passé. Donc c'est une satisfaction.
Suite à cette nomination, on sait pertinemment que le pays va avancer.
Le nouveau gouvernement contesté a été formé dimanche 3 mars. La quasi-totalité des membres de l'ancienne équipe sont non seulement maintenus, mais conservent également leur poste. 15 nouveaux entrants contre 21 anciens pour un total de 8 femmes. Freeman Sipila, Bongui pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a présenté le week-end dernier à Kinshasa son plan d'urgence pour les 100 prochains jours, un programme ambitieux qui annonce de grandes réalisations et réformes dans les domaines sécuritaires et sanitaires, et aussi dans les secteurs de la justice et des infrastructures. De nombreuses réactions ont suivi cette annonce. Quant à la population, elle attend, elle, la matérialisation de toutes ses promesses, nous dit Thierry Kamundi de Topkomo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au plan sécuritaire, le président Félix Tshisekedi a promis de ramener la paix à l'est de la RDC, au Kasaï central et à Yumbi dans le Maïndombe. Au plan politique, le président de la République a annoncé la libération très prochaine des prisonniers politiques et d'opinion et promis d'œuvrer à la mise en condition d'un retour rapide des exilés politiques. Pour ce qui est des infrastructures, le chef de l'État se dit capable de construire plus de 5000 km de route dans les 5 prochaines années. Il a par ailleurs promis la réhabilitation de certains hôpitaux de référence à travers le pays. Des promesses d'un changement rapide ont également été faites dans le domaine de la justice, l'éducation, l'habitat et dans la desserte en eau et électricité. En réaction, Grégoire Kiro, ancien député national et ressortissant de Benyonor Kivu, espère que cette promesse de paix à l'Est va se matérialiser.
La population de Beni essentiellement attend de juger Félix Tshisekedi sur pièce. S'il parvient à extirper l'insécurité ici à Beni, mais tout le monde va produire. Mais si ce n'est qu'un effet d'annonce, des discours comme on en a entendu depuis plusieurs années, eh bien, tout le monde va constater qu'il est aussi incapable.
Ferdinand Kambere, cadre du Fonds commun pour le Congo, la coalition de Joseph Kabila a également salué l'annonce de ce programme d'urgence. Et pour ce qui est de la justice, l'activiste Jean-Claude Katende espère qu'avec l'avènement du nouveau président de la République, elle œuvrera cette fois en toute indépendance et dans le respect des lois du pays. À ceux qui estiment que le président devrait attendre la nomination de son gouvernement pour faire appliquer son programme, Jean Baudouin Maillot, cadre de la plateforme politique de Félix Tshisekedi, répond.
Le plan a été investi, voici plus de 30 jours. On va être là à se regarder en attendant les conciliabules politiques qui peuvent s'arrêter ou se tirer encore à longueur. L'État est un. Le premier ministre viendra, il va s'insérer dans ce programme.
Dans les rues de Kinshasa, les personnes interrogées saluent cette série d'annonces du président et espèrent la matérialisation de toutes ses promesses.
Moi, je crois que le président Félix a lancé un signal fort pour dire à ses détracteurs qu'il est bel et bien le président en exercice en République démocratique du Congo, mais en même temps, il voudrait bien apaiser la situation politique. Vous savez qu'avant les élections, la tension était vive. Son programme qu'il vient de décliner, l'aspect politique est le plus important.
Sur le plan infrastructure, je trouve que c'est un bon plan. Ça va permettre à ce qu'il y ait de mouvements, de déplacements. Sur l'éducation, je trouve qu'il a beaucoup plus axé sur la réhabilitation des écoles, mais il n'a pas tenu compte des agents de l'État, surtout des fonctionnaires. Leur arriéré des salaires, la majoration de leurs salaires, bon, il n'a pas beaucoup plus tenu compte de ça.
À mon humble avis, ce plan des 100 jours se présente comme un plan quinquennal.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la statue de Thomas Sankara, qui a été dévoilée samedi à Ouagadougou, fait polémique dans le pays. Les populations disent ne pas reconnaître les traits du visage du père de la révolution burkinabé. Certains demandent même que cette statue soit refaite. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Aussitôt dévoilé samedi par le président du Faso Roch Kabore et l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, ami de Thomas Sankara, la statue du père de la révolution d'août 83 a été accueillie par de vives polémiques à Ouagadougou.
Le monument là, ça ne va pas. Ça ne va même pas du tout.
Serge Kalaga, un citoyen burkinabé.
De vie même on sait que ça ne ressemble pas au père de la révolution. Chez nous en tout cas, c'est très important qu'il ressemble en tout cas au père de la révolution. Les enfants peuvent tirer des leçons là-dessus.
Souleymane Nanassan même du copinage dans la réalisation du projet.
En fait,
au regard du monument, on sent effectivement que le laisser-faire là, ils ont peut-être balancé ça à un de leurs connaissants. Toutes choses là se fait toujours par affinité. Raison pour laquelle, quand on regarde le visage là, on sent vraiment qu'il n'y a pas une ressemblance.
Acculé, le comité international du mémorial Thomas Sankara a décidé de refermer la dite statue du capitaine Thomas Sankara et annonce de facto la finition des travaux. Face à la pression, surtout sur les réseaux sociaux, le comité lundi a présenté ses excuses au peuple. Luc Damiba, secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara.
Le comité mémorial Thomas Sankara présente tout d'abord ses excuses pour les insuffisances constatées à l'endroit de tous ceux qui sont choqués par le manque de ressemblance de la statue avec les traits du président Thomas Sankara. Nous demandons pardon au président du FASO, nous demandons pardon aux parrains Kirigang-Rawling, nous demandons pardon aux parents des victimes, nous demandons pardon aux populations du Burkina, d'Afrique et du monde. Nous apprécions surtout la grande vigilance de toutes les personnes qui ont constaté pour formuler leurs conseils au prix de leur service.
Et ce n'est pas tout. La statue sera reprise. Nathalie Yam, représentante du président Rawlings.
Tout le monde doit vraiment être rassuré que l'œuvre finale reflétera fidèlement la vision du Thomas Sankara que nous connaissons tous et que même ceux qui ne sont pas ses contemporains connaissent à travers les livres, à travers les ouvrages, à travers les différents médias.
Les membres du comité international du mémorial Thomas Sankara se donnent 2 mois pour finaliser la statue qui, tous espèrent cette fois-ci, ressemblera à Thomas Sankara. En attendant au Conseil de l'Entente, l'endroit où le capitaine Thomas Sankara a été assassiné en octobre 87, la statue reste fermée. Mais cela n'arrête pas pour l'heure l'indignation et la colère des populations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Brûler des calories en faisant du jogging et par la même occasion débarrasser l'environnement des déchets plastiques, l'éco-jogging, né il y a 2 ans au Togo, continue de mobiliser des jeunes. Notre correspondante à Lomé, Kay Lawson, s'est jointe à une course éco-jogging. Voici son reportage.
Chaque samedi, une quinzaine de jeunes Togolais choisissent un quartier de Lomé pour le débarrasser des déchets plastiques qui l'étouffent. L'activité baptisée Eco-Jogging allie jogging et ramassage des déchets plastiques. Félix Tagba est l'initiateur de Eco-Jogging.
Eco-Jogging, c'est un concept qui consiste à courir tout en ramassant les déchets et après à les recycler. Alors, la particularité d'Eco-Jogging, c'est aussi la sensibilisation. Tout au long de notre course, nous avons sensibilisé la population, nous leur avons dit de ne plus jeter les déchets dans la rue, mais de les jeter dans la poubelle. Alors pour notre propre santé, le jogging particulièrement, c'est un sport qui permet de brûler beaucoup de calories.
Les éco-joggeurs, après avoir enfilé des gants, un petit foulée, partent à l'assaut des rues dans la bonne ambiance. Ils scrutent les coins et recoins sur leur parcours à la recherche des déchets plastiques.
Nous sommes heureux de participer à éco-jogging qui permet en même temps de faire du sport, mais en étant utile pour notre environnement. Nous nous sommes engagés à ramasser les objets plastiques dans les quartiers de notre ville de Lomé qui est vraiment pollué à travers ces déchets plastiques pour que notre environnement soit aujourd'hui assaini et que nous puissions mieux vivre dans le système social.
Je pense que c'est bien puisqu'il y a trop de déchets partout. Ça nous aide aussi pour la santé, genre courir, c'est bon pour la santé. Et prendre des déchets par terre consiste aussi à faire un peu la propreté, le ménage de l'environnement.
Jean-Paul, ce jeune garçon qui a participé pour la première fois à une course éco-jogging, mesure la portée de son action.
C'est vraiment agréable de courir et de ramasser des déchets en même temps. Ça nous aide à mieux protéger l'environnement parce que les déchets sont très toxiques.
Pour cette séance d'éco-jogging, 21 kg de déchets plastiques ont été ramassés. Des déchets qui sont confiés à une structure de recyclage qui se charge de leur donner une nouvelle vie. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daniel Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.